Ça se comprend ?
Ouais, ça se comprend. Ouais, ça se comprend.
C'est vraiment très intéressant.
C'est un spécialiste.
Ah ouais ? Bah, ça m'étonne rien.
N'importe quoi. Oui, mais non.
Tout de même invraisemblable.
Ça, c'est bon ! Ouais.
Si je peux me permettre, je suis un peu délai de tout le monde.
Pardon ?
C'est bon, ça.
C'est agréable.
Ça se comprend.
T'as compris ?
Ça se comprend.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour à tous, bonjour Nathalie.
Alors aujourd'hui dans l'émission Ça se comprend, nous recevons en direct Jean-François Pelleré et Walter Rezaliti de Convergence Urgence Sud Santé 04. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là sur le plateau en direct. Olivier.
Eh oui, Nathalie, nous, avant toute chose, tout d'abord, qu'est-ce que Convergence Urgence Santé Sud ? Jean-François ?
Alors, c'est Convergence Urgence Santé 04.
Santé 04,
voilà.
Pardon.
Autant pour moi.
C'est c'est pas une association, c'est un mouvement qu'on a, enfin, une construction qu'on a proposée à tous les progressistes du 04, c'est-à-dire du secteur à la fois politique, avec des partis, avec des organisations syndicales, avec des associations, avec des collectifs, pour donner à notre association qui s'appelle Collectif Santé Haute-Provence 04, qui était uniquement centré sur les problèmes de santé, etc. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de monde qui, chacun de son côté, parler de ces problèmes-là, mais sur lesquels on n'avait pas réussi à faire la cohésion, à essayer de faire converger, c'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs convergence, tout ce que pouvaient revendiquer et les populations, et les élus, et les professionnels de santé, qu'ils soient publics ou privés, et on s'est dit, il faut qu'on foute ça en route, parce qu'il n'y a que de cette façon-là qu'on arrivera à obtenir, de la part du gouvernement, mais également de la part du ministère de la Santé, et donc de l'ARS, des choses concrètes à mettre en œuvre pour améliorer l'accès à la santé, ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous propose du bricolage, c'est-à-dire on met une visite médicale sur informatique, on fait tout un tas de choses pour nous faire croire qu'ils font des choses, alors qu'ils ne font rien, parce que nous, ce qu'on a compris maintenant et qu'on partage avec beaucoup de monde, c'est que cette mise en difficulté de la santé sur notre territoire, qui est partie quand même, il faut se rappeler que depuis les années 73 ou 74, le numerus clausus, qui avait pour mission de réduire le nombre de médecins pour soi-disant faire des économies, mais on s'est aperçu que ce n'était pas du tout pour faire ça. C'était simplement pour dire que l'argent consacré par notre République et notre État à soigner les Français, à leur permettre d'avoir un accès à la santé du plus haut niveau, ça coûtait trop cher. Parce qu'on avait d'autres priorités au niveau de l'Union européenne sur l'ultralibéralisation de toutes nos sociétés, avec un truc qui était de dire, non mais attendez, pourquoi la santé est publique ? Pourquoi la santé est un pôle public au niveau de la République, alors que ça rapporte 660 milliards d'euros et que tous les patrons de les milliardaires, les patrons du CAC 40, etc., ils disaient, mais c'est quoi cette République où on passe à côté de 20% de 660 milliards d'euros ?
Voilà, donc vous dites exactement que la destruction de nos services publics, dont celui de la santé et de la protection sociale, n'est pas due au hasard.
Exactement. Et ça s'inscrit dans une transformation de notre société, et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de porter en débat avec les populations, avec les pouvoirs publics, avec le ministère, avec le gouvernement, pour dire non, ça suffit. C'est-à-dire maintenant, on a éventé votre stratégie qui consiste à dire aujourd'hui, globalement, les services publics en France, 3300 milliards d'euros. C'est plus que la dette de la France. Donc 3300 milliards d'euros, et les Lagardère, les Arnault, les machins, ils disent, mais attends, c'est quoi ce pays de Barjot où on passe à côté de 880 milliards d'euros de profits par an pour nous. Donc voilà, c'est un problème sociétal et c'est un problème politique. Aujourd'hui, on est confronté à une ultralibéralisation de notre société, en définitive, faire de la France une start-up et partir sur une organisation du travail qui est basée sur, comment ça s'appelle, cette ubérisation de notre société.
Cette rationalisation financière, on va appeler ça comme ça, qui est dans les années 70, c'est lié à cette fameuse loi Evin, il me semble.
Voilà,
non,
c'est ça,
qui était lui médecin, d'ailleurs. C'est quand même assez étonnant. Absolument. Et ce numerus clausus, les pouvoirs publics ne sont pas revenus dessus récemment.
Alors, ils sont réussi.
Il va falloir du temps pour...
Absolument. Non, ils sont revenus en 2019. Le président de la République a décidé, en 2017, quand il est arrivé, ou 2018, de supprimer ce numerus clausus parce que ça commençait à faire tâche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'apercevait qu'il y avait à peu près 8 à 10% de la population qui est sans médecin traitant. Pour nous, sur le 04, c'est 20 000 personnes qui n'ont plus de médecin traitant.
C'est énorme, c'est effarant.
C'est effarant.
Bah, j'ai un ami médecin à Bordeaux, il a 5000 patients.
Voilà, c'est ça, ouais, comme, c'est la folie.
En tant que médecin traitant.
Voilà, c'est ça. Et donc, nous, on dit bravo au président Macron. Il a décidé de mettre un stop à ce numerus clausus. Mais par contre, derrière, depuis 2019, il n'y a rien qui a été fait au niveau où ça devait être fait. En matière de formation de jeunes, de recrutement de jeunes, pour les envoyer dans des universités ou des facultés pour qu'ils soient formés pour être médecin traitant, pour être médecin généraliste, pour être médecin spécialiste, etc. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, on s'aperçoit que globalement, il y a peut-être eu 10% de supplémentaires de recrutement de jeunes pour faire ces études, alors qu'on en a besoin de 30%. Parce qu'aujourd'hui, la France fait par an, résultat 2024, 11 000 jeunes formés qui sortent avec un diplôme, alors qu'on en aurait besoin de 17 ou 18 000 depuis 2019. Donc, ce qui fait que 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 fois 3 000 ou 5 fois 4 000 en moins sur nos jeunes qu'on forme,
c'est énorme.
Il nous manque encore, malgré la disposition visant à supprimer le numerus clausus, il nous manque encore 15 à 20 000 par rapport à ce qu'on aurait dû faire.
Former.
Voilà.
Et plus les infrastructures elles-mêmes aussi.
Exactement.
Les universités ne sont pas aujourd'hui en capacité d'absorber le nombre de formations qu'il faudrait pour subvenir. Donc d'où ce déficit depuis le numerus apertus, puisque ça s'appelle comme ça depuis 2019. Ah. Donc... on est en déficit de 30 000 à peu près jeunes formés.
Voilà.
Donc, et aujourd'hui, rien ne bouge. Et c'est pareil, en parlant de la formation, on n'a pas non plus d'universalité de formation des jeunes médecins en France. Chaque université, il faut le savoir, propose sa propre formation. C'est-à-dire qu'entre Lille et Marseille, le médecin n'aura pas eu la même formation. Au détail, globalement, il sortira médecin, mais il n'y a pas de mouvement d'une université à l'autre, puisque un jeune qui commence sa formation en université à Lille ne pourra pas venir à Marseille ou à Bordeaux ou à là, parce que le cursus n'est pas le même. Il faut le savoir. Donc tout ça limite effectivement le nombre de jeunes formés. Hein,
alors ça, c'est bien que vous l'indiquiez à nos auditeurs. C'est bien de le dire parce que, vous voyez, je ne le savais absolument pas.
Non, ben voilà.
Mais nous, on l'a découvert aussi.
Mais,
aujourd'hui, on s'aperçoit que ce milieu-là de la formation des jeunes dans les métiers de la santé, il est complètement, comment on peut appeler ça, dépassé. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui d'une cohérence dans la formation que l'on dispense à nos jeunes pour arriver dans des métiers de médecin, généraliste ou spécialiste, etc. Et il faut que cette cohérence, on la trouve au niveau national. Aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait. Aujourd'hui, on dit aux universités, eh ben, vous vous débrouillez, vous faites comme vous voulez, vous n'avez pas les moyens pour faire, eh ben, tant pis, on fera avec ce qu'on peut faire. C'est-à-dire aujourd'hui, on se retrouve avec 11 000 jeunes formés alors qu'il nous en aurait fallu 15 ou 16 000.
Alors, est-ce que vous avez une oreille quelque part dans les institutions prête à entendre ce que vous dites ou pas du tout? Quel est le dialogue avec eux?
Alors, c'est pas une oreille, c'est plusieurs oreilles, puisque ces institutions reviennent naturellement vers nous. C'est-à-dire, font partie aussi du collectif, etc. Nous, on n'invente rien, puisqu'on était comme tous les citoyens français, à l'écoute de ce qu'on entend... dans tous les médias, et donc on a ouvert le clausus numerus, c'est magnifique et c'est beau, et puis on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça et c'était pas vrai du tout, mais c'est une découverte qu'on a eue par ces instances. Il y a des médecins, on a des gens qui nous informent, qui sont dans ces institutions et qui nous informent de ce qui s'y passe.
Alors, il n'y a pas assez de personnel médical, mais il y a aussi les infrastructures qui ferment. Enfin, on a un problème aussi avec les urgences, on a un problème avec la réanimation. Enfin, je parle du 04, hein, là.
Oui, alors, les urgences qui ferment aujourd'hui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Faut pas se voiler la face. C'est pas qu'il n'y a pas de problème aux urgences. Si, il y a des problèmes. Mais c'est tout l'environnement médical qui est... Parce que à partir du moment où on a une médecine de ville qui répond aux besoins d'une médecine de ville, on aura forcément moins besoin d'aller aux urgences, etc. Donc quand on a un hôpital qui ne propose pas de service de réanimation, le chirurgien qui va venir venir à l'hôpital de Manosque, il fera pas de grosse chirurgie, étant donné qu'il y a un risque énorme à prendre, vu qu'il n'y a pas de réanimation. Et donc, ce chirurgien qui vient faire des vacations à Manosque, bah, il proposera sa chirurgie à l'hôpital d'Aix, à l'hôpital de Marseille, là où il peut agir en toute sérénité. Donc, vous voyez que tout se tient, en fait. On parle beaucoup des urgences, et on parle beaucoup trop des urgences, d'ailleurs, et pas assez de pourquoi on en est arrivé là aux urgences. Voilà. Avec une formation de médecins dont le besoin, on le connaît, le besoin, mais si on arrive à mettre en place cette formation de médecins, de ville et de médecine, chirurgie, spécialiste, etc., les urgences ne seront plus saturées. Il y aura peut-être moins besoin de médecins d'urgentistes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, on manque terriblement de médecins urgentistes, hein, c'est un fait. Et on sature tous les hôpitaux, puisque les urgences aujourd'hui de Manosque, de Sisteron, de Digne ferment à tour de rôle. Et on en voit sur Pertuis qui est complètement saturé. Et de Pertuis, on a appris récemment que de Pertuis, on transfère des urgences de Pertuis sur Aix qui, eux, sont aussi saturées. Donc on va forcément... On n'a jamais eu d'ailleurs de réponse de l'ARS à ce sujet sur le nombre de personnes qui ont été victimes de ce manque de ces transferts et de ce manque de prise en charge par les urgences.
Alors le 27 mars, jeudi 27 mars, à la salle des Tilleuls de Manosque, s'est tenue une conférence justement de votre collectif. Et l'invité de cette conférence était le professeur Gonzalves, chef du département d'oncologie à l'Institut Paoli Calmette de Marseille et urgentiste des hôpitaux de 04. Au passage, nous saluons l'Institut Paoli Calmette, l'IPC, qui fait un travail formidable. Donc cet oncologue était là lors de cette conférence à Manosque.
Ouais, il était là. Et on s'en félicite grandement parce qu'il nous a apporté quand même une vision un peu globale de ce qui se passait dans ce monde de la santé.
Alors quelle était justement sa vision ?
Et en même temps, il y avait la présence qui est quand même courageuse de la part des trois autres médecins qui étaient là avec lui, qui sont des médecins de l'hôpital de Manosque et de l'hôpital de Digne, et qui sont les deux d'entre eux sont urgentistes. Et un troisième est spécialiste.
Donc ils se mobilisent à leur tour.
Et donc eux aussi, ils ont eu des choses à dire, ne serait-ce que par rapport à leur situation, par rapport à la vision qu'ils avaient de ce qui se passait dans leurs établissements. Et Gonzalves est intervenu en disant que c'est insupportable d'avoir aujourd'hui des centres hospitaliers qui soient aussi défaillants et déficients en matière de prise en compte des besoins des populations. Walter le disait tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui n'est pas attractif pour les jeunes médecins et les jeunes spécialistes pour venir s'installer sur notre territoire, ce n'est pas le territoire qui n'est pas attractif, c'est l'hôpital qui n'est pas attractif. Aujourd'hui, que voulez-vous qu'un jeune qui sort de 10 ans de formation vienne s'installer à Manosque dans l'hôpital du Sahel, où c'est un internement de première classe pour lui. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à recruter sur l'hôpital de Manosque des gynécos, des pédiatres, Un diabétologue, il paraît qu'ils en ont trouvé un, mais enfin, on se demande si vraiment ils l'ont trouvé et qu'est-ce qu'ils en font. Voilà. Et en même temps, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne veulent pas venir. Non pas parce que le 0,4 n'est pas attractif. Mmh. Au contraire, même si on en a pris plein la tronche quand même au niveau des services publics qui ont été fermés, que ce soit la poste, que ce soit l'éducation, que ce soit tout un tas de secteurs. Mais aujourd'hui, c'est l'hôpital qui n'est plus attractif pour ces jeunes qui sortent. Et donc, s'ils ne viennent pas s'installer ici, c'est parce qu'ils vont ailleurs où on leur propose un plateau technique, comme ils disent dans leur milieu, d'accord, qui leur permet d'effectuer leur boulot comme il faut. Aujourd'hui, on ne demande pas à ce que l'hôpital de Manosque fasse des greffes cardiaques Non, on demande simplement que ce soit un hôpital comme tous les autres et qui dispense aux populations toutes les spécialités qu'on trouve dans un hôpital. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et en plus, comme le disait Walter, on n'a toujours pas de service de réanimation alors qu'on perd 20 vies par an. C'est quand même de la technocratie à son pire niveau dont on s'aperçoit aujourd'hui. Technocratie ultralibérale, bien évidemment, hein, qu'on s'aperçoit dans nos hôpitaux.
Comme je disais à l'époque, les technocrates, vous les installez dans un désert, 20 ans après, il faut acheter du sable ailleurs.
Mais oui, c'est
c'était,
ça.
C'était Coluche.
Exactement.
On salue ça, la mémoire de M. Coluche. Il y avait du monde à cette conférence ?
Mais on était salle comble, on était une centaine, les chiffres qu'on a fait c'est 95 ou 96, voilà, donc écoutez, une belle réussite, avec la belle réussite aussi de l'intervention des médecins qui étaient là, parce que vraiment ils nous ont éclairés sur non seulement ce qui se passait, mais ce qu'on pouvait apporter comme solution, mais solution pas de bricolage comme on le fait aujourd'hui avec l'ARS et toutes ces dispositions. Non, mais des solutions concrètes. Et on s'est aperçu que les propositions que faisaient ces médecins, les propositions qui sont venues de la salle, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde à cette réunion, et contrairement à ce qu'on rencontre d'habitude, ça n'a pas été une, entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je dis, ça n'a pas été une pleurnicherie dans laquelle tout le monde venait pour dire « Ah oui, mais moi... » Bon, il y en a qui ont dit qu'effectivement, ils avaient, comme le disait tout à l'heure Walter, ils en ont bavé par rapport à ça, parce qu'il y en a même certains qui ont dû perdre la vie, mais ça, on n'arrive pas à le savoir. Mmh. Et donc, ils sont venus en disant « Non, mais nous, on a des solutions. » En dehors de celle de l'ARS.
Donc vous sentez
et
bien
qui a été repris par les populations.
Oui, voilà.
C'est-à-dire, ce qui est revenu de la salle, c'est exact. Ce qui fait qu'on n'avait pas imaginé ça, on se retrouve à la sortie de cette réunion avec les propositions et les exigences que l'on fait qui sont reprises et renforcées par les médecins, etc. Et donc, on est en train de travailler sur la construction de... on ne va pas appeler ça un cahier de revendication parce que ça fait un peu syndicaliste ou un truc comme ça, mais des propositions que l'on fait à la fois au préfet, à la fois à l'ARS, au ministère de la Santé qu'on va rencontrer très prochainement et au niveau du gouvernement pour qu'on dise aujourd'hui, ça suffit. Ces bricolages qu'on nous propose ne servent absolument à rien parce qu'on s'est aperçu que depuis 2023, ça a continué à se dégrader avec les propositions de Braun, là, le fameux ministre de la Santé qui est venu faire un tour ici sur les 0,4 pour soi-disant apporter des solutions. Il n'a rien apporté. Il n'y a rien qui s'arrange. Au contraire, aujourd'hui, on s'aperçoit que les urgences de Sisteron ferment. L'hôpital de Gap, qui était introduit dans ce qu'ils ont appelé le CHICAS, c'était le rassemblement de l'hôpital de Gap et de Sisteron, est en train de se désengager. C'est-à-dire aujourd'hui, on s'aperçoit que les fermetures referment, les urgences referment de façon insupportable sur Sisteron, avec sur Digne également des fermetures. Donc aujourd'hui, tout ce qui a été proposé depuis 2019 n'a servi absolument à rien. Et nous, concrètement, on dit, voilà, il y a des propositions à faire. Dans l'urgence, il faut d'abord qu'on forme 5 à 6 000 jeunes médecins de plus en France. Il faut qu'on adapte les lieux de formation aux besoins de la République et non pas le contraire, c'est-à-dire adapter les coûts par rapport aux économies qu'on doit faire. Troisièmement, on dit aujourd'hui, il faut qu'à la sortie de leurs études, les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont soit spécialistes, soit médecins généralistes, etc., soit affectés pendant une période qu'on définira avec les élus, avec tout un tas de monde, avec les politiques et le gouvernement, entre 3 et 5 ans, dans les endroits où on a besoin d'eux, c'est-à-dire les déserts sanitaires et les hôpitaux en danger de fermeture, tels que celui de Manosque.
Oui, bien sûr. Olivier ?
Juste pour annoncer qu'on va passer un peu de musique, Nathalie. Il me semble, je crois qu'alors le premier titre que l'on a décidé de passer aujourd'hui, c'était les Black Pumas. C'est un duo américain de soul psychédélique présenté comme ça. En fait, c'est la réactualisation, on va dire, moderne, puisque c'est un groupe qui date leur création de 2017. Et en fait, c'est le R&B, mais le véritable R&B, c'est-à-dire le rhythm and blues, à la sauce des années 2000-2025 déjà. Et le titre qu'on va écouter, c'est Fire, par les Black Pumas.
C'est parti. Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Mistral dans Ça se comprend. Nous sommes sur le plateau en direct avec Olivier Mouly, animateur, moi-même Nathalie. Et aujourd'hui, nous recevons Walter Rezaliti ainsi que François Pellaré de Convergence.
Urgence Santé 04.
Et voilà. Donc, on disait tout à l'heure justement que bon, c'est la, dans le secteur du 04 et le Haut-Var, il y a une crise sans précédent, désertification des médecins, dégradation des centres hospitaliers, de Manosque, de Digne, de Sisteron, personnel épuisé, maltraité, etc. Et face à cette stratégie, vous dites qu'il est urgent de mettre en avant et en convergence les revendications des travailleurs du secteur de la santé, des usagers des secteurs publics de santé, de la population et de leurs élus. Alors, quelles sont les propositions justement qui émanent de ce collectif? Vous les avez un petit peu évoquées, on peut les développer maintenant, juste avant, après la pause musicale.
Globalement, on avait fait quelque chose d'imparfait, parce qu'on va le parfaire avec, suite à notre réunion du 27. Mais on avait fait une trame quand même, qui consistait à dire aujourd'hui, il faut former 30% de plus de médecins pour qu'on ait, d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, un nombre suffisant nous permettant de répondre aux besoins des populations. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est à la, si on fait 10-15% par an de plus, c'est donc la moitié. Donc aujourd'hui, depuis 5 ans, on est en perte de 15 000 jeunes nouveaux qui auraient pu rejoindre dans les années à venir le lieu de travail. Ensuite, on demande à ce que les universités soient mises à niveau pour pouvoir justement permettre la formation de ces jeunes dans de bonnes conditions, avec le personnel nécessaire, avec les structures, avec les organisations nécessaires. Et en même temps, de dire que, il faut qu'on... Comment on pourrait appeler ça ? Harmoniser un petit peu ces études au niveau de l'Hexagone. Parce qu'aujourd'hui, c'est le parcours du combattant, quand on rajoute le fameux nouveau dispositif permettant d'accéder aux universités et aux facultés, c'est-à-dire, je ne me rappelle plus son nom, c'est Parcoursup. Mmh. C'est un truc insupportable. C'est-à-dire aujourd'hui, on est en train d'écrémer la situation médicale par rapport à des besoins d'une population qui ne sont jamais pris en compte. C'est-à-dire aujourd'hui, Parcoursup, c'est uniquement pour permettre à une élite, entre guillemets, liée au milieu de la santé, pour permettre d'accéder à ces jeunes. Non, nous on dit aujourd'hui, il faut que l'accès à la santé soit possible à toutes les couches de la population, à partir du moment où ils en sont demandeurs, et que deuxièmement, ils en ont les qualités, parce qu'on ne dit pas non plus de faire n'importe qui comme médecin, comme on peut faire quelqu'un de... Non, nous on dit aujourd'hui, il faut qu'on puisse ouvrir ces recrutements à toutes les couches de la société et non plus à une couche élite, entre guillemets. Voilà. Ensuite, ce qu'on propose, c'est, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est de flécher les affectations de ces nouveaux jeunes qui sortent dans des endroits où on a besoin d'eux. Et ça, on est en harmonie complète. Il y a une étude qui est sortie l'année dernière par Agir. C'est une association de jeunes médecins qui démontre que, premièrement, aujourd'hui, à plus de 50%, c'est une première en France depuis des décennies, à plus de 50%, les jeunes médecins veulent être salariés. Ils veulent avoir des conditions de travail normales qui leur permettent d'avoir une vie familiale, une vie sociale, une vie associative, tout ce qu'on veut, normale. Donc eux, ils ne veulent plus travailler comme leurs anciens, 80 heures par semaine, toujours dans la bagnole, quand ce n'était pas avec le cheval et la carriole. Voilà. Donc eux, ils disent non, ça, on n'en veut plus. On veut travailler dans des endroits où, et qu'on partage avec d'autres professionnels de santé notre quotidien. C'est-à-dire qu'on puisse parler avec un médecin, avec un kiné, avec un ostéo, avec machin. Voilà. Donc eux, ils veulent travailler dans des structures qui sont des centres de santé et non pas des maisons de santé. Parce qu'on, bon, je ne sais pas si on aura le temps.
Voilà.
Oui. Mais la différence, elle est simple. Un centre de santé, c'est un truc public, pardon, qui est géré par une collectivité, qu'elle soit municipale, communauté de communes, communauté d'agglo, etc., mutuelle. Voilà. C'est un bien public qui est à disposition des salariés qui seront médecins, infirmières, ostéos, tout ce qu'on veut, voilà, pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et dans lesquelles, justement, on pourra remettre en place des gardes, ce qui a été supprimé depuis maintenant une quinzaine ou une vingtaine, ouais, non, plus, une vingtaine d'années, qui ont été supprimées, ce qui est une catastrophe et ce qui fait que les gens se propulsent vers les urgences parce qu'ils n'ont plus de médecins de garde.
Oui, pour en revenir après à la surpopulation
urgences. Oui. Et donc, nous, on dit, voilà, il faut qu'on mette en place...
Par rapport donc à la maison de santé.
Et la maison de santé, c'est un détournement d'argent public. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait payer à des communautés de communes, des municipalités, des locaux et du personnel pour accompagner les médecins, les infirmières, etc., qui exercent leur profession libérale sur un domaine public qui a été payé par notre argent. Et donc, on est dans une situation où il faut qu'on reparte sur les besoins de la République et de la population. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi dans l'affectation de ces jeunes médecins. Bon, parce qu'on s'aperçoit que ce ne sera pas forcément une occasion qui sera posée aux médecins. C'est-à-dire qu'ils vont tous faire des stages dans des hôpitaux, dans des cabinets médicaux, dans tout un tas de trucs dans lesquels, en grande partie, ils restent là où ils sont, s'ils y sont bien. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a personne qui reste sur l'hôpital de Manosque. Pourquoi ? Parce que l'hôpital de Manosque, il ne propose rien. Et il n'y a personne qui va rester dans la maison de santé qu'a créé le maire de Manosque, qui s'appelle, je ne sais plus le nom, dans lequel, parce que les conditions de travail sont insupportables. C'est-à-dire on est sur une médecine ultra-libérale qui n'a qu'un truc, c'est faire du profit, de la spéculation. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'on remette ça en cause. Ensuite, on a aussi amélioré le recrutement en proposant à l'éducation nationale de valoriser sur notre territoire, mais dans les autres, l'accès au métier de la santé.
Vous pensez que c'est pas le fait ?
C'est pas fait. Pas ça. Aujourd'hui, nous, on dit, sur les trois lycées qu'on a sur Manosque, qui sont Est-Langon, qui sont les Istles, et qui sont le lycée professionnel de Martin-Bray,
oui.
Il n'y a rien qui est fait. C'est-à-dire, nous, on dit aujourd'hui, l'éducation nationale, il faut que vous bougiez les fesses, que vous alliez proposer à ces jeunes-là, qui sont capables de faire médecin, voire d'être spécialiste après, des possibilités d'accès. Et nous, on dit, voilà, il faut qu'on propose aussi un accompagnement de ces jeunes, parce que issus de milieux populaires qui n'ont pas forcément les moyens de payer des écuries de course pour leurs jeunes, c'est-à-dire 5 à 10 000 euros par an, hein, voilà, plus les trucs qu'on paye tous les mois, etc. Donc il faut que la République, là aussi, se mette en position pour permettre à ces jeunes-là, qui n'ont pas les moyens intellectuels, ils les ont, mais les moyens financiers, ils ne les ont pas, de pouvoir accéder à ces formations. Arrêter cette espèce d'écrémage d'une élite sociétale ou sociale qui permet d'accéder à ça. Donc nous, on dit ça, il faut qu'on le mette en place sur notre territoire. Ensuite, il y a aussi les problèmes liés aux propositions qui sont faites, il faut qu'on les remette en cause, de trimballer toujours nos patients dans des camions de pompiers. Alors, ils sont très bien pris en compte, hein, en général, les patients. Mais par contre, on les trimballe d'un coup à Manosque. Non, on va essayer de vous amener à Sisteron. Ah, mais Sisteron, c'est fermé. Ah ouais, mais alors, ouais, peut-être vrai, qu'on va vous amener. Ouais. Et ce que disait tout à l'heure Walter, on les retrouve tous à Aix. Et à Marseille, et qui embouteille tout un tas de choses. Je vous rappelle qu'il y a eu des conflits quand même au niveau de l'hôpital public, pas privé, d'Aix, qui avait des attentes de 19 camions de pompiers pour prendre en compte en partie un nombre de patients qui viennent de chez nous. C'est-à-dire on pose des problèmes, c'est-à-dire aujourd'hui.
Voilà, j'en profite pour revenir dessus, parce qu'on a découvert aussi que les pompiers, donc, du coup, à mobiliser des ambulances qui vont très loin et très longtemps, à plusieurs reprises, dans le courant de l'année, on n'a pas le nombre, hein, et puis c'est très discret dans le domaine. Ouais, ça reste confidentiel. Donc, beaucoup d'interventions ont eu, soit n'ont pas pu se faire, soit ont eu des problèmes d'intervention et d'arriver à temps sur les interventions, faute d'ambulances qui était monopolisé pour transporter des gens d'une urgence à l'autre.
Voilà. Donc c'est de la bricole. Nous, on considère ça comme étant de la bricole. C'est donner l'impression qu'on fait quelque chose. Ils ne font rien.
Oui, ils sont des placebos, selon vous.
Voilà, c'est des placebos. Alors ensuite, on a aussi des propositions qui sont... Ça, c'était plutôt du niveau national. C'est-à-dire, nous, on dit, il faut que l'Assemblée, et d'ailleurs, ils s'en sont saisis, à travers leur projet de loi transpartisane, là, qui va être réexaminé en mai, mais sur lequel on a réussi à faire réintroduire la notion de liberté d'installation légèrement remise en cause par rapport au fait que, là, d'abord, c'est les priorités de la République et des populations. Ensuite, on voit les possibilités de s'installer, qui a la Canebière, sur la promenade des Anglais, qui à Courchevel, etc. Après, au bout de 3 ou 5 ans, en fonction d'eux, ils pourront s'installer là où ils veulent. Ensuite, nous, on dit localement, il y a des choses qu'il faut qu'on propose. Qu'on propose pour l'éducation nationale, mais ça, il faudra qu'on le mette au niveau national. Et sur notre territoire, revenir à une garde médicale. C'est-à-dire, nous, on exige qu'il y ait une garde médicale. Alors, sur le calcul qu'on a fait sur le 04, ça fait globalement, par rapport au nombre de médecins, même si c'est un peu catastrophique, ça fait une semaine à deux semaines par an de garde par rapport à chaque médecin.
Ce qui est jouable, en fait.
Alors, c'est jouable. Mm. Mais par contre, il n'y a pas la volonté politique. Aujourd'hui, on dit, c'est pas parce qu'il y a un ministre qui s'est appelé Mattei, qui a dit on supprime les gardes, qu'il faut qu'on le maintienne. Aujourd'hui, il y a un besoin urgent des populations d'avoir un service de garde, et donc on les remet en place. Et ça, ça relève des structures locales. Hein. Ensuite, on dit qu'au niveau de la mise en danger des hôpitaux du 04, notamment Manosque, Digne et Sisteron, il faut qu'on leur donne les services, il faut qu'ils aient les services dont les populations ont besoin. Je le disais tout à l'heure, on ne demande pas à avoir un professeur qui fasse des greffes cardiaques ou des greffes pulmonaires ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Par contre, nous, on dit aujourd'hui, si on veut être attractif, il faut qu'on ait un service de réanimation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce qu'on le rappelle quand même, on perd 20 vies par an parce qu'on n'a pas de réanimation.
C'est énorme.
Et ça, c'est des études qui ont été démontrées au niveau national par rapport à l'ouest de la France. Ils avaient fait une étude en disant, voilà, si on n'est pas dans les 30 minutes par rapport à un problème AVC, crise cardiaque, machin, truc, chose, mais on est perdu. C'est-à-dire, ou alors, le moins pire, on se retrouve avec des séquelles qui perturbent toute la vie après.
Oui, parce qu'en plus, dans le 04, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des petits villages reculés.
Absolument,
oui. Il faut en plus se rendre sur Marseille.
Le temps d'intervention s'allonge aussi.
Oui, oui. Ouais,
avec la multiplication des tâches auxquelles sont confrontés. Oui.
Et puis, on est en dehors des fameuses 30 minutes, parce que ce n'est pas nous qui l'avons inventé, 30 minutes, c'est les Toubis qui ont dit, c'est bien, si vous avez un pataquès du genre infarctus, AVC, etc., si vous n'êtes pas pris en compte, non pas par une voiture qui a à l'intérieur une espèce de machine de réanimation. Non, non, tout ça, ça ne compte pas. C'est-à-dire, il faut être pris en compte par un service capable de réanimer avec des médecins réanimateurs, avec des infirmières réanimatrices, etc., etc. Donc, nous, on dit aujourd'hui, c'est inadmissible que depuis 2010 que l'hôpital a été ouvert, on a 2010, 25, 15 ans, on perd 20 points, ça fait on a perdu plus de 300 personnes. C'est-à-dire aujourd'hui, avec leur stratégie technocratique de dire on n'ouvre pas, parce que même l'hôpital avait demandé à l'ouverture d'un service de réanimation en 2011 ou 12 ou 13. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est de l'irresponsabilité d'État que de ne pas permettre d'ouvrir un service de réanimation à l'hôpital.
Alors, une idée me vient là. On parle des services de réanimation. Qu'en est-il des maternités dans le 04?
Mais dans le 04, pour l'instant, on s'aperçoit, parce que là aussi, ils ont mis un ratio. C'est-à-dire que qu'une maternité puisse être confortée, etc., il faut qu'elle fasse 1000 accouchements. Bon, mais écoutez, nous, on a deux services de maternité, donc obstétrique, etc., sur Manosque et Digne. Digne, ils font 400 accouchements par an, et Manosque, ils en font 800. Avec des difficultés sur Manosque pour faire venir des pédiatres, faire venir des gynéco-obstétriciens, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on dit, ils ont l'intention de supprimer toutes les maternités sur les 04 et de les envoyer vers la maternité privée catholique de Puy-Ricard et éventuellement de les envoyer pour le nord du département, vers Grenoble, etc., etc. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, non, il faut stabiliser les services, il faut leur donner les moyens de fonctionner correctement, et il faut qu'on leur donne aussi les moyens de pouvoir être attractifs pour ces spécialistes qui vont permettre à nos services de fonctionner.
Je vais peut-être ajouter quelque chose qui va nous faire sourire, mais là, on parle de territoire, on s'en aperçoit bien de ces désertifications du service public à tous les étages, on peut dire ça comme ça. Mais il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est que l'été, il y a plus de 2 millions de personnes qui passent dans les gorges du Verdon. Ça aussi, il faut le gérer. Alors, est-ce qu'on va vers une médecine pour les touristes et une médecine pour les locaux? Comment ça se passe?
Alors, enfin, non. Alors, le surplus, ça se gère. le surplus, l'activité, la suractivité en été. On n'est pas un territoire où il y a non plus... Il y a des touristes, il y a du tourisme. Mais il est assez épars, assez...
Donc, oui, c'est assez vaste.
Donc ça se gère à partir du moment où on a tout un système qui se tient, ça se gère l'été. Par contre, il y a un autre point qui est, à mon avis, crucial, dont on n'a pas encore parlé, mais l'hôpital de Manosque est quand même l'hôpital de référence du chantier ITER. ITER, en plus, donc ça fait 6000 personnes, si je me trompe. Donc, avec l'accidentologie possible autour d'un chantier qui est celui-là. Donc aujourd'hui, c'est bien... Enfin, ça ne peut pas être autre chose qu'une volonté délibérée de réduire les interventions de l'hôpital de Manosque. Après, l'été, forcément, on est en tension toute l'année. Donc l'été, on est en surtension, voilà, avec du personnel qui craque parce qu'on lui refuse, des congés, parce que, voilà, etc. Enfin, j'allais dire, malheureusement, c'est l'ordinaire, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est malheureux de dire ça, mais on en est arrivé là. Effectivement, le personnel vit ça au jour le jour.
Oui, on a applaudi les infirmières pendant le Covid, à défaut de les avoir augmentées.
Oui, absolument.
Vous les sentez... Comment vous ressentez le personnel de... Quel retour vous en avez du personnel de santé?
Ils sont saturés.
Il est en souffrance, hein, mais...
En souffrance, saturé et en même temps écœuré. C'est-à-dire aujourd'hui, on s'aperçoit que sans prendre les seuls médecins, les infirmiers, infirmières, aides-soignantes, etc., eh bien, ils s'en vont.
Ont-ils l'impression de ne plus pouvoir faire leur travail correctement?
Absolument.
Ils partent en libéral.
Aujourd'hui, on privilégie dans ces structures-là non pas la proximité du personnel soignant avec ses patients, mais les résultats de production, l'utilisation de la micro-informatique, ils passent plus de temps à faire des trucs, des rapports, des machines dont on sait que ça sert absolument à rien, si ce n'est pour dire, comme chez Leclerc, ah ouais, mais l'année dernière, vous avez vendu 3000 boîtes d'haricots verts, et cette année, on fait pareil dans la santé, c'est-à-dire aujourd'hui, ils sont systématiquement détournés de leur éthique médicale au profit d'une technocratie qui n'apporte, ouais. Voilà, d'une gestion administrative ultra-libérale. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est soi-disant faire de la rentabilité pour un truc, pour un hôpital qui n'a pas à être rentable. La seule rentabilité d'un hôpital, c'est sa rentabilité sociale et républicaine. Ouais. C'est tout. Après, que Arnaud Lagardère ou que Ramsay, le grand capitaliste australien qui nous a piqué des dizaines d'hôpitaux en France, qui est en train de prendre tout un tas de structures ou les autres, des EHPAD, etc. Tout ça, il faut que ça sorte. C'est-à-dire, du service public, il faut que cette notion de rentabilité financiero-libérale dégage. C'est-à-dire, il faut que tout ça s'apporte. Ça disparaisse. On a découvert récemment qu'ils avaient installé dans le service public de la santé ce qu'on appelle le lean management. C'est un truc, c'est une façon de gérer les hommes et les femmes dans les organisations de travail comme des machines. Et ça a été inventé dans les années 80 par une société qui s'appelle Toyota au Japon. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, ils ont installé ça en France. Et ils sont en train de faire souffrir et détruire une population qui était très attachée à son métier par rapport à la proximité des populations, la qualité de pouvoir dispenser des soins.
Qui est essentiel d'avoir.
Essentiel.
Sinon, on ne fait pas ce métier.
Voilà. Même d'ailleurs, si on voit si on peut parler peut-être quelques secondes du côté libéral, dans nos villages, hein, je le sais personnellement, si je peux parler de mon cas, j'habite un tout petit village. Les gens sont confrontés à la santé à travers des gens qui sont formidables, c'est les infirmières,
bien sûr,
qui sont libérales, mais qui font elles-mêmes beaucoup d'autres tâches que simplement des tâches médicales, qui sont là pour cette parce que la solitude des populations existe aussi beaucoup.
Complètement, complètement. Et après, on s'aperçoit qu'on est en train d'essayer de nous inventer tout un tas de choses. Par exemple, la Poste, qui sont en train de privatiser, qui sont en train de fermer des services postaux, etc., etc. Eh bien, aujourd'hui, on va leur faire, vous allez amener les médicaments. C'est vrai que ça sert à quelque chose, mais ce n'est pas ça quand même. C'est-à-dire aujourd'hui, il faudrait qu'on mette en place un dispositif qui nous permette de permettre à ces personnes-là qui sont isolées, qui sont éloignées de tout, de pouvoir avoir accès, comme tous les autres, à la santé, qu'on mette en place des dispositifs qui leur permettent d'aller chercher.
Parce que les Alpes de Provence, voilà. Une population assez rurale. Et si on faisait une petite pause musicale, Olivier, qu'en penses-tu ?
Je sens que vous t'es enthousiaste à l'idée d'écouter. On va rester un peu dans le funk, puisque là, cette fois-ci, c'est le boss.
Ah oui, alors le boss, James Brown.
Bah, je m'en étrangle. Oui, James, c'est James Brown, le boss. Hein.
Si.
Et il le faisait bien sentir. Avec un titre un peu étonnant qui s'appelle Hot, c'est-à-dire chaud. I need to be loved, j'ai besoin d'être aimé. Et en fait, c'est un petit clin d'œil qu'il a fait à David Bowie, qui avait sorti ce célèbre morceau qui s'appelle Fame, où pour les musiciens, il y avait une guitare très funky. Et James Brown a eu
il a l'intuition.
Fait ça sous forme de plaisanterie. Ah. Il a repris ce même riff de guitare et pour en faire un morceau plus funk, parce qu'il trouve que oui, il n'était pas assez funk à son goût. Donc on va écouter ça. Hot, I need to be love. Love, 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 même. Hein, c'est à la James Brown.
Start thinking about the sweet, sweet sex of my dad. Baishapa Penekoe, Penekoe Volante Bakobuharebebe, Pehendu, Fréquence Mistral. Bonjour, comment vous allez ce matin? J'espère que bien. Écoutez, Fréquence Mistral.
La voix de Magda en Guarani, merci à elle. C'était donc Hot I Need to Be Loved de James Brown, paru en 1975. Alors on en revient à nos invités, Walter et Jean-François. Alors Jean-François, tout d'abord, une double question. Il semblerait quand même que vous êtes. Votre collectif est quand même très entendu. Et d'ailleurs, combien vous êtes dans ce collectif?
Bon, actuellement, on doit être une bonne centaine entre le collectif et la convergence. Voilà. Mais bon, d'actifs, bon, comme dans toutes les associations, dans tous les collectifs, etc., on doit être, et on n'est pas trop mal loti quand même, une bonne vingtaine, quoi, à être présent sur le terrain, à aller faire tout le boulot.
Des vrais actifs.
Voilà, des vrais actifs. Voilà.
Avec un besoin. Vas-y, vas-y.
Avec un vrai soutien.
Absolument, ouais.
Avez-vous encore besoin de bénévoles, de personnes, si quelqu'un, un auditeur, souhaite vous rejoindre?
On va donner d'ailleurs tout de suite les clés pour vous joindre, avant de continuer.
Pour nous joindre, alors il y a deux choses. On a un site internet qui s'appelle, qu'on peut trouver en tapant https.
Comme ça, c'est là.
2.2/. CS comme collectif santé tiré du 6 HP Haute-Provence.fr. Ensuite, on a une adresse électronique également qui est toute simple, contact au singulier @cs-du6hp.fr, et un numéro de mobile où on peut appeler 06 30 03 52 64. Voilà, et tout ça, c'est sur nos parutions, parce qu'on s'est mis un peu à jour il n'y a pas longtemps avec un bon copain qui est informaticien et qui nous a mis tout ça aux petits oignons, et chacun peut travailler là-dessus. Et d'ailleurs, lors de notre réunion, on a eu 3 ou 4 demandes ou 5 de gens qui voulaient être au courant de ce qu'on faisait, comment on pouvait y arriver.
Bien sûr, je précise à nos auditeurs que vous pourrez écouter le podcast de l'émission sur fréquencemistral.com, onglet Manosque, avec vos coordonnées, justement.
Ah, ouais, elles apparaîtront dessus en lien direct. Donc, votre voix porte, vous êtes entendu?
On est un petit peu entendu maintenant, contrairement à une époque où on était un petit peu ignoré, parce qu'on était un petit peu des hurluberlus qui s'occupaient de choses qui ne les regardaient pas, alors qu'on a démontré que, de toute façon, ça nous regardait aussi bien à nous, collectif, convergence, que aux populations, aux patients, mais également aux élus. C'est-à-dire on a réussi à avoir un contact avec les élus de proximité, les maires, les communautés d'agglos, les communautés de communes, etc., avec lesquelles on travaille bien et sur lesquelles on avance, pas assez vite, mais sur lesquelles on avance.
Donc vous sentez que ça bouge, quoi.
Voilà, donc on sent que ça bouge parce que globalement, on a eu la décence et le respect des gens à qui on s'adressait, à savoir les populations dans un premier temps et les citoyens, et après les élus, en leur disant, mais vous vous rendez compte, ce qu'on vous demande de faire, vous n'en avez pas déjà assez, en plus vous devez aller ouvrir une maison de santé, vous devez aller ouvrir un cabinet de je sais pas quoi. Non mais on est dans une république bananière avec des trucs comme ça, on n'est plus dans une république démocratique moderne telle que nous on souhaiterait qu'elle soit en France. Et donc tout ça, ça a fait bouger, parce que même aujourd'hui, on a eu des contacts avec l'ARS, M. Bijou Duval du 04, directeur du 04, avec le préfet M. Chapuis, qu'on a rencontré. Bon, on n'est pas tout à fait satisfait de la suite qu'ils ont donnée à notre rencontre, mais on y reviendra et je pense qu'on arrivera à avancer, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les propositions que l'on fait et qu'on a énumérées tout à l'heure, elles sont tout à fait indémontables. À part si on veut faire du bricolage, comme on nous le propose aujourd'hui. Nous, on dit non, le bricolage, ça suffit.
Elles sont y compris partagées par les gens, par l'ARS, par tout le monde d'ailleurs. Enfin, elles sont complètement dans la droite ligne de ce qu'il faudrait faire.
C'est le retour que vous avez eu le 27 mars, vous avez senti la population assez concernée, prise de conscience, et qui revient justement avec des propositions.
Et ça bouge. Toutes ces propositions sont partagées par vraiment tout le monde. Il n'y a pas de propositions superflues fantaisiste, merci.
Merci Olivier.
Donc c'est ce qui nous donne aussi la valeur ajoutée. Et l'entente qu'on a, parce qu'on n'a jamais reçu on n'a jamais été refoulé dans les entretiens qu'on a avec les diverses autorités.
Ouais.
On les a plutôt mis à mal et à défaut parce qu'ils n'arrivent pas à répondre concrètement, parce qu'ils ont des consignes pour ne pas répondre ou pour enrober ce qu'on a. On a toujours des réponses très globales, toujours les mêmes. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a fait un exercice entre deux autorités, des réponses suite à des courriers qu'on avait faits. Les phrases sont quasiment les mêmes. Hein, voilà, donc c'est de l'endormissement.
Et cette réponse n'est-elle pas d'ailleurs un peu morcelée, puisque il n'y a pas de cahier des charges national. Il y a chaque ARS est un département différent, ou ouais. Le dialogue ne doit pas être si facile.
Non, il n'est pas facile. En même temps, il est plombé, quoi. C'est-à-dire que les ARS sont uniquement des outils d'exécution. C'est pour ça que nous, on demande à ce qu'on mette en place en région des instances pertinentes par rapport à l'accès à la santé, aux soins, à la protection sociale, etc. Mais pas telles que les ARS. Ce sont uniquement de l'entre-soi qui véhicule et qui mettent en place les directions ultralibérales qui arrivent du ministère de la Santé et du gouvernement. Nous, on dit non, les ARS, il faut qu'on les supprime. De même qu'il faut qu'on supprime la T2A, la tarification à l'acte, qui est un truc qui plombe les hôpitaux en leur faisant faire les trucs que le privé ne veut pas faire, c'est-à-dire le plus rentable. Voilà. Donc aujourd'hui, tout ça, nous on dit qu'il faut que ça disparaisse. Par contre, oui, on met une instance au niveau de la région dans laquelle il y ait une réflexion, mais également il y ait des représentants des organisations syndicales, des associations d'usagers, de défenseurs des hôpitaux. On met un truc qui est sociétalement acceptable et qui non pas est un outil de mise en œuvre des directives qui tombent d'en haut.
Alors, est-ce que vous avez prévu un événement ou des rencontres ou des nouvelles conférences prochainement dans les semaines ou les mois qui viennent ?
Alors, on est en train de réfléchir là-dessus. Par contre, nous, on a eu des demandes qui sont revenues à la fois de médecins sur le territoire, mais également de populations qui nous demandent de réitérer, par exemple, cette conférence-débat dans d'autres endroits du territoire. Donc là, il faut, parce qu'on est petit. On n'est pas une machine infernale, tout un tas de choses. Donc nous, on est bien sensible à ça, parce que ça veut dire que tout ce qu'on a fait maintenant depuis un an et demi, ça paye, même si c'est, compliqué à mettre en œuvre, etc. Ça paye, c'est-à-dire ce boulot-là d'information, de proximité, d'échange avec et les patients, et les citoyens, et les organisations du travail, du secteur, les politiques, etc. Tout ça, ça paye. Mais bon, effectivement, on envisage aussi peut-être de faire, comme on l'a fait en 2024, une manifestation assez importante sur le territoire, parce qu'il faut qu'il y ait des choses que l'on fasse remonter auprès des populations sans filtre, tellement.
Oui, voilà. Je vous propose, il nous reste un petit peu moins de 2 minutes, peut-être le mot de la fin, messieurs.
Walter.
Oui, alors le mot de la fin, il va être difficile à faire en 2 minutes, mais sans revenir sur tout ce qu'on a évoqué jusque-là, la médecine. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, directement, c'est qu'une médecine de ville avec une médecine globale, c'est de l'argent qu'on met pas dans le soin. C'est-à-dire une prise en charge des patients qui se fait au bon moment. C'est aussi de l'argent qu'on dépense en moins. Et ce côté-là, on ne le prend pas suffisamment
en compte.
Tout est
lié, bien sûr. Tout est lié.
Donc voilà. Donc une médecine générale, une médecine de ville qui couvre tous les besoins. Et je pense qu'on ira dans le bon sens.
Oui. Ben oui, vous viendrez sur le plateau de toute manière.
Hein. Ben, voilà. Vous tenir au courant. Avec un tel sujet, en tout cas.
Oui.
Jean-François et Walter, merci beaucoup d'être venus parmi nous.
Ben, merci à vous de nous avoir accueillis.
Ben, ça
merci
sera avec plaisir une prochaine fois. Je pense qu'on n'a pas fini de se voir.
Voilà, avec plaisir.
Hélas, le débat est large.
Hélas.
Gentiment.
Ah, merci.
Mmh.